RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nos trois GG aujourd'hui, Emmanuel Debidier, le chef d'entreprise, Charles Consigny, l'avocat, Joël Dagosséry, la coach de vie. Et si vous ratez les grandes gueules, vous avez les podcasts à votre disposition sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous allez dans l'onglet des GG, l'onglet des grandes gueules. C'est la deuxième heure des GG là qui démarre à 11h20. On reviendra sur ce qui a valu à une journaliste de la chaîne télé L'Équipe d'être suspendue. Pourquoi ? Parce qu'elle a parlé de l'accouchement en direct à propos de ce joueur de l'équipe de Belgique qui souhaite quitter la sélection pour aller assister à l'accouchement de sa femme. Et voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit, bon, bah, écoutez, l'accouchement, c'est un moment dégueulasse où le père ne sert à rien. Tollé sur les réseaux sociaux, elle s'est excusée pour la forme, mais pas sur le fond. Et elle a été suspendue, la journaliste France Piron. Alors, est-ce que l'accouchement, c'est un moment dégueulasse où le père ne sert à rien ? Vous venez en parler au 32.
Non, ça, c'est toute la parentalité.
À 11h moins. Dans un quart d'heure, le racisme va être un enjeu de la présidentielle. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a raison ou pas ? C'est au 32-16 là aussi que ça se passe. Et au 32-16 aussi, vous prenez la parole pour réagir au rapport Liana qui est rendu aujourd'hui. C'est terrible parce que maintenant, ce rapport, il est du nom de cette petite fille qui a été tuée. Sur le suspect numéro 1 dans l'affaire, c'est Jérôme Barella. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice et Laurent Nunes, le ministre de l'Intérieur vont se faire remettre à 11h ce rapport. On se souvient de l'émotion liée par cette affaire et on y pense encore tous régulièrement, d'autant plus que on en parle quasiment tous les jours. Ce qu'il voulait avec ce rapport, c'était mettre en lumière les dysfonctionnements de la justice et de la police. Alors, les premiers éléments qui sont sortis montrent que ce n'est pas forcément le manque de moyens, mais succession d'erreurs humaines. Le temps perdu dans la prise en charge de la plainte qui avait été déposée en août 2025 par la mère de Rosa. Le rapport pointe en fait que la plainte est arrivée en papier, sans caractère d'urgence, et qu'elle a mis 3 semaines à être ouverte. Ensuite, elle a fait des allers-retours en voie poste, et 1 mois et demi avant d'être attribuée à un service d'enquête. C'est essentiellement ça qui mérite l'attention, puisque si la plainte de la maman de la petite Rosa avait été prise en compte, parce qu'il y avait les certificats médicaux sur les viols sur Rosa, eh bien Jérôme Barella aurait été entendu, placé peut-être en garde à vue, et qui sait ce qui se serait passé. C'est pas tellement de refaire le drame, ce qui a conduit au drame, mais c'est surtout d'essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas ou le moins possible. Dans cette histoire, c'est pour ça que je vous pose la question au 32-16, il y a des dysfonctionnements qui sont pointés. Ce qui est intéressant, c'est que dans la foulée de la publication du rapport, les ministres, écoutez bien, je vous jure que c'est vrai, hein, c'est français. Dans la foulée de la publication du rapport, les ministres vont lancer des enquêtes administratives pour manquement professionnel. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des sanctions contre les magistrats ou contre le gendarme? 32-16 pour le dire au GG, Charles.
Alors, des sanctions contre les
de manière individuelle,
les gendarmes, je n'y crois absolument pas. Parce que c'est très rare que ces professions tout à fait corporatistes se laissent sanctionner et assument des responsabilités individuelles. Ça, vraiment, demander à un juge ou un enquêteur d'assumer une responsabilité individuelle, c'est très, très compliqué. Et c'est un problème d'ailleurs, moi je pense qu'il faudrait, dans ce dossier-là précisément, des sanctions individuelles, réelles, contre ceux qui ont laissé ce dossier à l'abandon. Et pareil d'ailleurs aussi pour ceux qui ont maltraité la mère de la petite Rosa, vous savez, qui était une victime elle aussi de Monsieur Barella. Cela, je pense qu'il faudrait des vraies sanctions. Je crains que ça n'arrive jamais. Moi, je pense qu'il faudrait, je sais pas, 1 mois de suspension sans solde ou une rétrogradation ou que sais-je, mais des vraies sanctions pour que ça ait une valeur d'électrochoc pour le reste de la chaîne. Ensuite, c'est quand même hallucinant qu'on entende que une plainte circule au format papier, qu'elle est envoyée par la poste à différents services. C'est-à-dire quoi? Pourquoi pas la faire transhumer par diligence aussi pendant qu'on en est?
Et surtout qu'elle a mis 3 semaines à être ouverte.
Non, mais c'est pas normal.
Alors que le rapport dit que le du côté de Hoche, on n'est pas surchargé par les affaires.
C'est pas normal. Et je trouve que quand il y a un nom de quelqu'un qui bipe comme ça dans plusieurs plaintes, ça devrait biper dans l'ordinateur, si vous voulez. C'est-à-dire, si vous avez un plaignant, deux plaignants, trois plaignants qui visent la même personne sans s'être concertés entre eux, potentiellement dans des commissariats différents, etc., il devrait y avoir une alerte dans le système. Et je trouve que le retard technologique de la police et de la justice en France, il est inadmissible, parce qu'on sait aujourd'hui que les pays qui arrivent à garantir une sécurité à leurs habitants ou à leurs visiteurs, ce sont des pays qui utilisent massivement la technologie. Que ce soit la Corée du Sud, les Émirats, un certain nombre d'endroits comme ça, Singapour dont on parlait tout à l'heure, ce sont des pays où la sécurité est totalement technologique. Donc voilà, et si ça peut avoir valeur d'électrochoc, et si on peut se dire peut-être qu'en France, on va un tout petit peu utiliser les outils modernes à notre disposition, ce serait quand même intéressant.
Joël Dagosséry.
Le peuple réclame des têtes. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais j'ai pas d'autre expression. En tout cas, moi, je ressens le besoin de voir des têtes tomber après le Louvre.
Des sanctions, c'est ça.
Oui, complètement.
Au
sens symbolique, oui. Après le Louvre, où on a vu quand même que la directrice du Louvre s'est elle-même auto-démissionnée, soi-disant, enfin, a été recasée quelque part. Et ce fiasco de l'affaire Liana, excuse-moi, je suis sûre que si t'interroges la population et qu'on te raconte que tout va continuer pareil pour les personnes impliquées dans ce dossier, je peux te dire que ça donne des maux de ventre. Donc, des gendarmes qui ont reçu la plainte jusqu'au procureur, il faut identifier les personnes qui ont failli, notamment la personne qui a transmis ce dossier sans marquer de caractère d'urgence. Cette personne-là, excuse-moi, on a un problème. Les gendarmes qui répondent au téléphone, j'espère que les coups de fil sont enregistrés et tracés. Normalement, ça allait, parce que dans le moindre centre d'appel dans lequel j'ai travaillé quand j'avais 22 ans, tous les coups de fil étaient tracés. Donc, on savait qui avait répondu à qui, à quel client. Donc, identifier la personne ou les personnes qui ont répondu à la maman de Rosa en lui disant qu'elle harcelait les services de la gendarmerie. Toutes ces personnes-là, excuse-moi, doivent avoir une sanction à hauteur de leur responsabilité dans cette affaire. Il est hors de question que tout le monde s'en sorte tranquillement et que chacun finisse son petit train-train quotidien, aille au travail avec le même grade, avec le même salaire, sans que ça se passe.
D'ailleurs, tu veux le savoir, tu veux connaître le nom, comme par exemple au moment d'Outreau, quand on avait parlé du juge Burgot.
Je veux pas tant savoir les noms. Enfin, ça m'intéresse pas de savoir que c'est Monsieur tel gendarme ou Madame tel machin, c'est pas ça. Je veux savoir qu'il y a eu des sanctions. Moi, je cherche une société de responsabilité. Et aujourd'hui, en France, en fait, mais c'est quoi? C'est la noblesse, en fait. Mais ces gens, c'est la noblesse d'État, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont immuables. Bah oui, mais on peut pas les toucher. Ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Ils peuvent faire les pires erreurs. On peut avoir nos gosses qui meurent à la suite des pires erreurs. Et ils sont intouchables. Bah non, ça doit s'arrêter à un moment. Donc le rapport, c'est bien. Mais on attend derrière les sanctions qui vont avec.
Emmanuel.
Alors, comme les politiques n'agissent que par le baromètre médiatique, ils allument la radio, en particulier le président de la République le matin, et ils entendent, ils gouvernent au bruit. Donc je pense, pour une fois en désaccord avec notre ami Charles, je pense qu'il y aura des sanctions.
Bah, tu verras, tu parles.
Au moins des annonces de sanctions, puisque autre caractéristique des politiques, c'est l'effet d'annonce. C'est pas l'efficacité, c'est l'effet d'annonce qui, en fait, comme on oublie après que ça tombe dans les sables, a une vertu démagogique et électorale de la réalité que l'effet d'annonce ne devient pas. Mais ce qui est plus important que les sanctions, évidemment beaucoup plus important, c'est d'en tirer les leçons et d'avoir des améliorations concrètes, même si c'est très difficile concrètement, parce qu'il y a tellement un volume écrasant de plaintes et des complexités procédurales excessives de droit de la défense, tout à fait excessives, parce que c'est ça aussi, c'est complètement embolisé parce que tout est bloqué par les recours, etc.
Mais
là,
c'était
pas
la juridiction
il faut un grand coup de balai dans les procédures. Même si ça met des avocats au chômage, tant pis.
Non, mais ça, il a raison, Emmanuel. On peut tout à fait revoir. Moi, je fais pas du tout partie des Khmer Rouges qui considèrent qu'il faut pas toucher une virgule du code de procédure pénale. On a bien écrit ce code de procédure pénale. On le fait évoluer régulièrement, parfois dans le sens d'une amélioration des droits de la défense, parfois au contraire, ça existe aussi, hein, dans le sens de plus de droits pour le parquet. Ça, vous en avez beaucoup, des textes qui donnent beaucoup de pouvoir aux juges, aux enquêteurs, etc., qui se font tout à fait au détriment des justiciables, en tout cas des personnes mises en cause. Donc moi, je suis pas du tout hostile à ce qu'on revoie la procédure pour que les policiers fassent à moins de choses trappe, si vous voulez. Ça n'est pas le sujet en l'occurrence. Dans l'affaire Liana, c'est pas Monsieur Barella n'a pas été sorti de garde à vue à cause d'un vice de procédure. Il a juste pas été placé en garde à vue. Il a pas été ciblé par les enquêteurs.
Ouais, c'est le sujet. Il n'a même pas été convoqué ni entendu.
Joël. On a un mélange de négligence.
C'est le mépris pour les plaignants.
De négligence et de travail à l'ancienne. Moi, quand j'ai travaillé, j'ai commencé dans le logement social en 2008. On nous demandait d'envoyer les dossiers, donc les candidatures, par papier, donc par la voie de poste. Dès 2009, tout a été digitalisé. C'est-à-dire, il n'y a pas un dossier qui partait par la poste. Ça partait par mail, scanné par mail. C'est reçu chez le bailleur, c'est traité. De plus, je pense qu'il y a un moment, il faut installer des délais de traitement pour les affaires. Ça peut pas prendre 8 ans, ça peut pas prendre 10 ans. Il y a un moment, il faut mettre une sorte de seuil au-delà duquel une affaire doit être jugée et traitée, parce que sinon les gens se lâchent en fait. Ils se disent on est débordé, et donc le débordement c'est le prétexte à tout. Non, mettez des délais, ça suffit. Il y a pas à traiter une affaire après 8 ans ou 10 ans. Une justice, elle se rend, alors je dis pas dans l'instant parce qu'il faut pas non plus que ce soit expéditif, mais néanmoins quand t'es victime, t'as envie que la justice soit rendue à 1 an, 2 ans, allez, 3 ans max, mais pas 8 ou 10 ans, faut arrêter quoi.
Mais le problème c'est que va-t-il se passer d'ici la présidentielle? Ce genre d'affaire
rien,
qui est... Non mais tu vois, on est sur une affaire, un véritable drame qui a ému la France parce qu'elle a été le symptôme aujourd'hui des problèmes de notre pays, avec au bout la mort d'une petite fille de 11 ans. Le tout, c'est de se dire, ce rapport qui est rendu aujourd'hui, et je pense que ce soit le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, ils vont bien évidemment faire une communication sur ce rapport. Une conférence de presse, ou une interview, ou venir ici peut-être même sur le plateau des GG, expliquer ce qu'il y a dans le rapport. Mais donc derrière, d'ici à l'élection présidentielle, est-ce qu'on dira, on sanctionne, au risque de, au sein même de l'institution judiciaire ou policière, de se retrouver, tu vois, en confrontation avec les magistrats, avec des syndicats.
Oui, mais les juges, moi,
c'est ça, tu vois. Est-ce que le garde des Sceaux prendra ce risque-là ou pas?
Franchement, régulièrement, aussi bien les policiers que les juges. Alors, les policiers, ils travaillent quand même beaucoup. On les voit, en tout cas, moi, je les vois assez au four et au moulin dans les services d'enquête, notamment à Paris, en région parisienne. Ils manquent pas de boulot, donc ils travaillent. Les parquetiers travaillent aussi, on va pas raconter l'histoire, ça, quand même, ça turbine. Il y a d'autres branches de la magistrature où, quand même, 17 heures, c'est 17 heures. Hein. Mais moi, je suis désolé. Moi, je pense qu'une société où la journée de travail s'arrête à 17 heures, elle peut pas marcher.
C'est évident.
Il y a plein de domaines où on peut pas s'arrêter à 17 heures. Mais surtout, ce que je trouve dingue, c'est que ce sont des gens, les juges, qui demandent à leur prochain, c'est leur métier, de rendre des comptes toute la journée.
Oui, donc hein, eux-mêmes de
toute la journée. C'est-à-dire, c'est leur métier de dire, ah bon, mais vous n'avez pas conservé votre facture du 2 août 1992, mais comment ça se fait? Bon. Et eux-mêmes, quand on leur demande des comptes, alors là, c'est vraiment, mais comme si on transgressait une espèce de règle gravée dans le marbre. Comment osez-vous sous-entendre qu'un magistrat aurait pu se tromper, aurait pu laisser passer quelque chose, aurait pu manquer de diligence? C'est insoutenable. Il est par essence infaillible. Bah non, je pense que personne n'est infaillible.
Justement, là, on parle des juges. Et puis, il y a aussi, vous savez, dans cette erreur, dans la prise de plainte, il y a aussi le gendarme. Il y a un gendarme aussi qui est mis en cause. C'est Christophe qui va en parler avec nous. Et qui est gendarme, justement, du côté de l'Hérault? Bonjour, Christophe.
Oui, bonjour à tous.
Comment vous réagissez justement à ce qu'on dit dans les GG avec la remise de ce rapport et s'interroger sur s'il y aura des sanctions ou pas? Dites-moi.
Alors, moi, personnellement, mon avis, je suis quand même assez éloigné quand même du rapport. Je, je, j'en fais pas partie, hein, on est d'accord. Mais je voulais apporter quand même des nuances sur ce qu'a dit Monsieur Consigny, que j'apprécie beaucoup. Par rapport à la prise de la plainte, depuis à peu près, ça fait à peu près 2 ans qu'il y a une révolution numérique qui est en marche. En tout cas, je parle pour la gendarmerie. Je parle pas de la police.
Ah oui.
Nous, pour la gendarmerie, il y a une révolution numérique qui est en marche, qui est compliquée, parce que, intellectuellement parlant, il faut se mettre un petit peu à jour. C'est pas infaisable, c'est juste des habitudes qu'on doit prendre. Mais quand quelqu'un vient dans une brigade déposer une plainte, automatiquement, il y a une signature numérique qui est à poser. C'est obligatoire maintenant. Et après, la procédure, elle est stockée et puis envoyée numériquement au magistrat.
Mais là, c'était pas le cas, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place.
Voilà. Apparemment, c'est pas le cas. Je suis un petit peu étonné, parce que si ça date d'à peu près 2025, la révolution...
Normalement, il y avait ça.
Voilà, normalement, théoriquement, si en plus, il y a des... Pour l'affaire de Rosa, notamment...
C'est là où votre collègue est mis en cause, vous voyez, c'est de ne pas avoir pris en compte la plainte, de dire à la mère, arrêtez de m'appeler, ça commence à me fatiguer, sinon je dis que c'est du harcèlement, vous voyez, c'est ça le problème.
Tout à fait, là sur ce point-là, le gendarme en lui-même, moi, je défends pas spécialement.
Qu'est-ce qui pourrait lui arriver justement, puisque vous êtes au courant des sanctions.
Dans ce genre de cas, je l'ai jamais vécu, mais en tout cas, parce que moi, je suis APJ, je reconnais, je suis pas OPJ, mais les OPJ que j'ai rencontrés, en tout cas,
officier de police judiciaire,
quand de la bouteille et tout ça, eux, ils disent que quand il y a des fautes graves constatées par le procureur de la République, ils peuvent perdre leur qualification d'OPJ. Ça, c'est déjà arrivé. Alors, c'est sûr, c'est pas tous les jours.
C'est pas courant, ouais.
Voilà, c'est pas courant, mais ils peuvent perdre leur qualification d'OPJ, donc être rétrogradé, on va dire, au niveau de la qualification judiciaire. Et après, si le gendarme en question ne fait plus l'affaire, il peut, on peut lui proposer, éventuellement lui faire comprendre qu'il faut peut-être changer de service et s'orienter vers des tâches plus administratives.
Mais Christophe, donc ça veut dire que le train de sanction existe, ça pourrait avoir valeur d'exemple au moins en interne, en disant, notre collègue, il a pris cher, donc les gars, maintenant, on fait attention. Mais vous savez, Christophe, là, dans le rapport, ce qui est dit, c'est que là, le rapport, il est rendu aujourd'hui à 11h. Hein, et dans la foulée du rapport, les ministres vont lancer de nouvelles enquêtes administratives pour manquements professionnels. Donc après le rapport, il y aura encore des rapports pour pointer les manquements. Donc on est parti pour un bon moment. Merci à Christophe, le gendarme. Merci Christophe d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir expliqué le fonctionnement. Merci. À votre avis, y aura-t-il des sanctions, oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Vous dites non à plus de 80%. Donc vous êtes non, même pas dubitatif. C'est vous êtes plutôt fataliste. Dans un instant, le racisme va être un enjeu de la présidentielle. Qui le dit? Jean-Luc Mélenchon, d'accord avec lui ou pas? Il a raison ou pas? C'est au 32-16 que ça se passe. Il est 10h20, vous êtes avec les GG en direct sur RMC, la radio, et RMC Story, c'est la télé, le canal 23 de la TNT. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Venez prendre la parole avec nous, bien sûr, au 32-16 pour discuter, pour débattre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Joël Dagosséry, Emmanuel Devilliers et Charles Consigny. On va maintenant se mettre un petit peu dans le mode présidentiel. On attendait de savoir ce qui allait être dit au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une petite phrase qui a été relevée et qui mérite d'être commentée avec vous au 32-16.
La question qui est posée par ce rassemblement qui s'est fait à l'appel d'une série d'associations et de Mali Baya Yoko, c'est la question du racisme. Et cette question, à mon avis, va être une des questions de la présidentielle. La France est au pied du mur. Qu'est-ce qu'elle choisit? Est-ce qu'elle va continuer cette dérive que l'on observe dans le racisme, le rejet des autres? Alors on pointe tantôt une population, tantôt l'autre. Ou bien est-ce que politiquement, démocratiquement, on va décider stop, basta, il y en a assez?
Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Le racisme va être un des enjeux de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il a raison ou pas? Alors il est malin. C'est là où il est très fort politiquement, Jean-Luc Mélenchon. C'est que aujourd'hui, vous avez des partis qui disent que la question de l'immigration doit être un dossier. et Jean-Luc Mélenchon le transforme en disant c'est le racisme qui va être au cœur de l'élection présidentielle. Là où il est parti de droite ou d'extrême droite dit c'est l'immigration, on lui dit c'est le racisme. Et ça lui permet de mobiliser sa base électorale, mobiliser sa population qui va voter aussi pour lui dire c'est vous qui allez être pointé du doigt. Vous allez avoir à faire un choix entre nous qui vous acceptons de Nouvelle-France et ceux qui vous rejettent, et ceux, ce sont les racistes. Est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce que c'est l'enjeu ou pas? 32-16 pour en parler avec les GG. Emmanuel.
Alors, tu viens de décrire avec la finesse d'analyse qui te caractérise la manipulation, effectivement, de M. Mélenchon et de son équipe, dynamique par ailleurs, en particulier Bompard. Mais moi, pour avoir été donc à ce concert hier soir, être resté suffisamment longtemps, m'être baladé, avoir vraiment pris l'ambiance, on voit que l'antiracisme d'une part et ce qu'il appelle l'antifascisme d'autre part ne lui permettront pas de gagner. J'anticipe un peu le déroulé de la campagne électorale parce que la France n'est pas raciste. Évidemment que la France n'est pas raciste, ça se saurait. Alors il y a toujours ici et là des comportements répréhensibles et qu'on médiatise beaucoup, mais la France n'est pas du tout en risque de racisme. La France n'est pas du tout en risque de fascisme. C'est d'ailleurs scandaleux cette histoire d'antifascisme, parce que le fascisme, ça vient de son courant politique, lui qui était au Parti Socialiste. Les fascistes, Mussolini, le national-socialisme en Allemagne, c'était des gens de gauche. Des vrais populistes. Donc il n'est pas gonflé de parler de fascisme alors qu'il n'y a pas de fascisme en France et de se poser en antifasciste
pour
porter
Emmanuel.
Sa carrière. Il veut encore être candidat à 90 ans, ce monsieur. Il y a des moments où il faut prendre sa retraite.
Mais peut-être qu'il sera président l'année prochaine, mon cher Emmanuel. Joël, est-ce qu'il a raison, Jean-Luc?
Moi, je considère que le racisme est l'un des enjeux, pas l'enjeu, parce que quand tu interroges les Français, et dans les Français, j'imagine qu'il y a aussi des Noirs et des Arabes, pour parler de manière très brève, donc qui mettent le pouvoir d'achat en premier. Donc, je considère que le racisme est l'un des enjeux de pas mal de présidentielles depuis. J'en veux pour preuve le nombre de fois où on a fait ce qu'on appelle ce front républicain, entre guillemets, pour barrer la route au RN depuis 2002. Donc, je peux t'assurer qu'il y a toute une partie de la population, pas que noirs et arabes, d'ailleurs même des blancs, qui considèrent que l'extrême droite est un danger pour ce pays et qui, malgré quelquefois leur rejet de certaines politiques à gauche, ont choisi de faire barrage à l'extrême droite. Donc, ce que dit Mélenchon, quelque part, c'est quelque chose qui est vrai, compte tenu des votes précédents, compte tenu de Marine Le Pen au second tour des dernières présidentielles et qui a échoué. Bah si, excuse-moi, le Front Républicain, il a quand même existé. Il a encore existé, d'ailleurs, aux dernières législatives, enfin, après la dissolution. Ce qui a fait que le RN, qu'on annonçait super gagnant et de prendre la majorité des sièges gagnant.
Ça ne légitime pas une situation de racisme ou de fascisme.
Non, bah oui, excuse-moi, ça légitime pas une situation de racisme ou de fascisme. Il faut quand même dire qu'il y a une partie de la population qui a quand même l'impression qu'elle est montrée du doigt tous les quatre matins. D'accord ? Et ça, c'est une vérité. Donc là, tu peux pas m'enlever ça. Et donc, ce que je dis, c'est que M. Mélenchon, même si, en fait, c'est quelque chose qu'il souhaite, c'est vrai, mais moi, je considère que c'est quelque chose qui existe déjà compte tenu des comportements électoraux de beaucoup de Français.
Alors, tu as pour partie raison dans cette perception, mais moi, j'ajoute, puisqu'il faut être majoritaire au deuxième tour de l'élection, que ça ne lui permettra pas de l'emporter.
Bah ça, faut voir. Attends, t'as vite parlé, hein. Faut voir, hein. Parce que il est sûr. Parce que je te dis sur l'affaire Quentin, par exemple. Quand il y a eu l'affaire Quentin, j'avais dit ici, mais attendez, je suis en train de défendre LFI parce qu'en fait, ce sont les seuls qui ne sont pas en train de baiser les pieds du RN toutes les 4 secondes. Et je peux te dire qu'il y a toute une partie des Français issus de l'immigration dont on dit que ils seraient normalement de droite si la droite n'était pas aussi raciste. Je te le dis. Quand je te dis normalement de droite, c'est parce qu'il y a une partie de l'immigration ou de personnes issues de l'immigration qui ont plutôt un côté un peu conservateur. T'as aussi une partie de l'immigration qui est très dans la réussite, dans le succès, etc.
Oui, mais
ils n'iront pas voter pour Retailleau parce qu'en fait, ils considèrent que Retailleau est raciste.
Oui, mais si on s'étend sur le racisme, on peut parler aussi du racisme anti-blanc.
Bien sûr. Parce que les blancs ici, oui, c'est bien connu, les blancs subissent le racisme et la discrimination dans ce pays. C'est pas du tout la majorité de la population.
On parlait de l'antisémitisme. population. On peut aller dans tous les
mais
domaines.
Non, mais oui, non, on peut pas tout mettre à égalité. Je suis désolée, Emmanuel. Non, franchement, ce truc de racisme anti-blanc, à un moment, faut que ça s'arrête, quoi. Faut arrêter de nous raconter des fables. Oui, est-ce qu'il y a des blancs subissent du racisme? Ça peut exister. Mais le système, il est pas fait pour oppresser les blancs dans ce pays. Arrête.
Charles. En tout cas, je pense que Jean-Luc Mélenchon veut que la question du racisme est présentée de cette façon-là. Soit au cœur de la présidentielle. Je pense qu'il le souhaite. Ce faisant, à mon sens, il rajoute de l'huile sur le feu et je pense que je pense pas que ce soit très sain et ça fait des années que la gauche le fait de maintenir les personnes qu'on dit racisées dans l'idée qu'elles sont persécutées par les blancs en gros et par l'État etc. parce que ça crée du ressentiment et ça crée un sentiment de persécution qui est pas toujours fondé. Moi je dis pas qu'il n'y a pas de racisme en France, je pense qu'il peut y en avoir comme il y en a dans énormément de pays dans le monde, que ce soit au nord ou au sud, partout il y en a. Mais je suis pas sûr que ce soit le premier sujet quand même dans le pays. Et la montée du RN, etc. Je pense pas que le racisme soit le moteur principal de la montée du Rassemblement national. Je pense que c'est aussi le désarroi économique, l'insécurité, l'exaspération par rapport à une certaine à certains débordements de racailles, etc. Bon, il peut s'y mêler un peu de racisme. Je veux pas être dans le déni. Mais non, mais t'as pas 40% des gens qui veulent voter Bardella parce qu'ils sont racistes. Il y a mais pas 40% de racistes.
Par contre, si je suis pas raciste, j'irai pas voter Bardella.
Non, mais moi,
on peut me raconter ce qu'on veut, on peut me raconter toutes les fables. Si je suis quelqu'un qui n'est pas raciste, je vais pas mettre un seul bulletin de vote pour Bardella. C'est simple et net. Parce que de toute façon, je vais pas cautionner Bardella. Parce qu'en fait, tout d'un coup, j'ai peur pour ma sécurité. Moi aussi, je veux que la France redevienne forte, etc. Mais je suis pas raciste. Donc moi, il est hors de question que j'aille mettre mon vote.
Chaque personne qui vote RN, il y a un fond de racisme dedans.
Bah, en tout cas, il y a un fond de cautionnement. Il y a un fond de j'en ai rien à foutre que le RN soit raciste.
Est-ce que tu peux traiter, politiquement de la question de l'immigration sans être raciste?
Ah oui, complètement. Oui, je le crois. Je le crois. Je crois que c'est une question qu'on peut traiter froidement et cliniquement sans être raciste.
D'accord. Parce que c'est ça, en fait, qui est en train de transformer politiquement.
Je crois qu'on peut parler des frontières et de protection des frontières sans être raciste, notamment envers la population française issue de l'immigration.
Comme on n'est pas nombreux autour de cette table, je dois venir à la défense du RN. RN n'est absolument pas, ni ses dirigeants, ni ses électeurs, un parti raciste, ni de près, ni de loin. Mais moi, par exemple, on me traite de femme noble parce que j'ai une particule. Ben, il faut être fier de ce qu'on
Mais toi, tu t'en fiches des faits. Toi. Donc, en fait, sur les dernières élections, quand on a débusqué tous les candidats racistes du RN et antisémites du RN, toi, pour toi, non, c'est absolument pas raciste. Bah, c'est quoi alors?
C'était des cas particuliers qui n'étaient même pas à la marge,
mais comme par hasard, qui se retrouvent au RN.
Si on est victime de racisme, Joël, noir, arabe, moi, modestement, Aristo, je sais pas quoi. Il faut être fier de ce qu'on est. Il faut garder la tête haute.
Ça n'empêche pas.
Et le tuer dans l'œuf, le racisme.
Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Mais avec des gens qui cautionnent et qui te racontent qu'en fait, il n'y a pas de racisme, ça va être un peu compliqué, hein.
Sale noble.
On a Olivier qui est avec nous, de Thiers dans le Val-de-Marne. Bonjour, Olivier.
Bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous aux abris avec la chaleur.
Ne vous inquiétez pas, on a des studios climatisés, on a la chance. Puis là, on va pas quitter le bâtiment, enfin moi en ce qui me concerne, avant 19h15 ce soir. Donc, qu'est-ce que vous en dites, Olivier? Jean-Luc Mélenchon dit que le racisme va être l'enjeu de la présidentielle, dites-moi.
C'est toujours la même ressuscité à chaque élection. Pour moi, c'est un vieux thème qu'on ressort de la valise pour pas parler des vrais problèmes. Et surtout, pour moi, Mélenchon est un danger public parce que il faut comprendre quelle est la doctrine qui l'anime. C'est une doctrine marxiste-léniniste. Il n'y a pas photo. S'il prend le pouvoir, il le garde. Mmh. C'est-à-dire qu'on en aura pour 40 ans avec lui. Il faut être clair et net. C'est pas une petite élection. Et je m'adresse aussi à Emmanuel de Villiers, s'il m'entend.
Oui.
J'espère qu'il va convaincre son frère Philippe de candidater, parce qu'il faut véritablement quelqu'un à droite qui puisse unifier les droites et incarner une forme d'autorité morale. Parce qu'on a, tous les candidats...
Stratégie, Olivier.
C'est de la stratégie ce que fait
Jean-Luc Mélenchon.
Actuellement, tous les candidats se déclarent. Et vous promettez des choses, vous ne pourrez pas les tenir. Pourquoi? Parce que les directives européennes sont au-dessus des lois. française. Mais... si vous voulez réformer une simple loi.
Oui, mais là, Olivier, on est d'accord sur le fond. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il participait à un grand rassemblement contre le racisme. Et ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il a dit à ceux qui sont là, puisqu'il est en train de mettre en place son programme, de mettre en place sa campagne électorale. Et pour lui, les tambours qui vont résonner, notamment auprès de sa base électorale du premier tour, c'est de dire, rassemblez-vous, soyez forts contre tous ceux qui ne veulent pas de vous. Et
Je voudrais m'adresser à Olivier.
Cette nouvelle France.
Voudrais m'adresser à Olivier pour le remercier de sa considération et lui dire qu'il a totalement raison dans ce caractère marxiste-léniniste, car place de la République hier, j'ai assisté à la diffusion de l'International.
Joël, dernier mot. Merci, Olivier.
Mélenchon, là, il faut dire qu'il était à Saint-Denis, il me semble, avec le maire de Saint-Denis.
Monsieur Bagayoko,
Et vois-tu, même si on voulait oublier, entre guillemets, qu'il y a du racisme, l'élection du maire de Saint-Denis a tout d'un coup rappelé à certaines personnes qui peut-être l'avaient oublié que oui, il y a du racisme. Moi, je considère que l'épisode de l'élection du maire de Saint-Denis était réellement, illustratrice de la façon dont on conçoit la réussite en France. C'est un maire qui est français, qui a fait l'école de la République, qui est cadre dans une entreprise, en tout cas qui était cadre dans une entreprise publique, qui a fait un parcours républicain, même s'il est dans un camp peut-être que d'autres n'aiment pas,
mais
qui a été
aussi,
à la fin. Oui, ça existe en
communisme.
France. Mais ça existe en France des communistes. Il y avait Robert Rue,
bien blanc.
Ça s'est pas gêné. Mais arrête. Et alors? Et ben, fallait interdire le Parti communiste. Il n'est pas interdit.
100 millions de morts dans le monde.
Donc, ce maire, il a eu un parcours normal et de réussite jusqu'à être élu maire. Mais ça encore, ça suffit pas. Non, un noir qui travaille et qui est élu, ça suffit pas.
Qui décroche le portrait du président de la République, qui veut faire siffler la Marseillaise, ça suffit. On n'est pas d'accord.
Mais d'accord, je suis d'accord avec toi.
Il est quasiment sécessionniste.
Oui.
Alors, il est bon en basket, mais ça ne justifie pas.
Il est bon en basket, il danse bien. Ouga, même j'en peux plus. Je vais partir. Je peux plus. Mais franchement.
Ce qu'il veut dire, c'est que.
C'est un entraîneur de basket, Joël, j'y peux
rien. Oui, mais tu dis, il est bon en basket et c'est tout. Ben non, c'est pas tout.
Non, j'ai pas dit c'est tout. J'ai dit que c'est pas parce qu'il est sympathique. Parce que ce garçon et monsieur Bagayoko est éminemment sympathique par lui-même, qu'il a le droit de cautionner le communisme, de décrocher le portrait du président de la République.
On est
en République, il se conforme à la République.
Va vivre dans un pays avec un parti unique, voilà, sans élection, et comme ça t'es super content. Là, on est dans un multipartisme avec des gens de gauche, de centre-gauche, de centre-droite, de droite, même d'extrême-droite, d'accord ? Ça te pose moins de problèmes l'ultra-droite que LFI. Ben à un moment, soyez cohérents, quoi.
Il est 11h20, on a posé la question, le racisme va être l'enjeu de la présidentielle, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a raison ? Non, vous dites non à 80%. Allez, dans un instant, suite des GG des grandes gueules, avec un tollé autour de ce qu'a dit une journaliste de la chaîne télé L'Équipe sur l'accouchement. Selon elle, l'accouchement, c'est quelque chose de dégueulasse, un moment dégueulasse où le père ne sert à rien, où c'est un figurant. Je crois que ça va encore bien se passer dans les GG. Il est 11h20, rendez-vous au 32-16.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est avec vous sur RMC, RMC Story, c'est au 32-16 que ça se passe avec Joël Dagosséry, la coach de vie, Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, Charles Consigny, l'avocat. On va revenir maintenant sur les propos tenus par une présentatrice en pleine Coupe du Monde de la chaîne L'Équipe qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.
Je ne comprends pas. Quand tu as la chance, parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde, c'est un bonheur inouï, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant.
Comment
c'est
ça, on ne sert à rien?
Non, tu ne sers à rien, tu prends une photo.
Qui encourage?
Non, bah super, la sage-femme, elle ne peut pas le faire.
Alors, elle prend des amphétamines, cette journaliste.
C'est France Piron, la journaliste L'Équipe, celui qui dit, mais enfin, il peut pas dire ça, c'est pas possible. C'est Brahim Asloum, l'ancien boxeur. Il parle, c'est le débrief de la Coupe du Monde. Et elle parle de Jérémy Doku, le joueur de l'équipe de Belgique, qui veut quitter la Coupe du Monde pour aller assister et suivre l'accouchement de sa femme. Elle y va, l'accouchement, un moment dégueulasse, où le père ne sert à rien, et joue un rôle de figurant alors que la Coupe du Monde, c'est un rêve de gosse. Bref, il y a des priorités. Quand t'es sportif professionnel, ta priorité, c'est faire la Coupe du Monde. Face au tollé, elle a donc présenté ses excuses. Elle a regretté d'avoir pu choquer, mais elle ne revient pas sur le fond de ses propos. Du coup, la chaîne L'Équipe l'a quand même suspendue. Franchement, je pense pas que ça vaille suspension. Et puis, elle a le droit d'exprimer ce qu'elle a dit.
Enfin, imagine si un homme avait dit ça.
Sauf que là, elle a touché un...
Il aurait fini crucifié.
Elle a touché un tabou, c'est-à-dire dire tout le mal que tu penses de l'accouchement. Alors, moi, je pense qu'il faut faire la différence entre la venue du bébé, le fait d'accueillir un bébé, qui est un moment magique pour un couple. Et puis, l'accouchement en lui-même. Et c'est de ça dont elle parle. Elle dit, l'accouchement, c'est un moment dégueulasse. Et la présence du père n'est pas indispensable, ça ne sert à rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On prend le temps d'en discuter tranquillement, sereinement, dans les GG, dans les grandes gueules. Joël.
Je suis contente qu'on me laisse parler en premier, puisque je suis la seule ici à avoir accouché, on est d'accord. À moins que vous nous ayez caché des choses. Alors, il y a plusieurs trucs dans son intervention. Premièrement, sur l'absence du père à l'accouchement. Moi, je ne suis pas choquée que, dans un cas exceptionnel, bon, on va considérer que la Coupe du Monde est un cas exceptionnel, le père puisse être absent. Voilà, je ne suis pas choquée par ça. Ce qui est choquant dans ses propos, c'est le pourquoi, en fait, c'est le contexte qu'elle met autour de ça. Premièrement, dire que juste l'accouchement est un moment dégueulasse. Alors, c'est vrai que, c'est pas le moment le plus propre de la Terre.
Non.
J'ai pas dit ça. Mais quand on dit dégueulasse, c'est vraiment... Il y a une sorte de dégoût qu'elle a mis sur l'accouchement qui, à mon avis, lui est propre. D'accord.
Et oui, puis cette sortie, ça devait être enfouie depuis longtemps en elle. Hein,
j'ai l'impression que c'est vraiment une expérience personnelle qu'elle exprime.
Elle n'aime pas ses enfants.
Mais parce qu'en fait, vous faites pas la différence entre le moment de la grossesse. Il y a des femmes qui n'aiment pas être enceintes, qui n'aiment pas, qui trouvent que c'est handicapant, c'est lourd. Bah, c'est lourd de porter un bébé. Hein, je vous assure que tu marches pas normal. Voilà. Et qui font la différence entre l'amour des enfants. Tu peux très bien adorer tes enfants, mais pas adorer le fait d'être enceinte pendant 9 mois, etc. Et puis les complications qui vont avec. Donc ça, c'est une chose. Par contre, après, quand elle dit que le père est un rôle de figurant, c'est là où ça commence à quand même me crisper dans ce sens-là. C'est qu'en fait, soit elle considère que les hommes ne servent à rien, de manière générale, ok, donc ils servent à rien, ils n'ont rien à foutre là, etc. De toute façon, ils n'ont aucune utilité dans ce moment, ce qui n'est pas vrai. Enfin, moi, j'avais le père de ma fille qui était là, et c'est pas vrai.
Il reste pour monter la bibliothèque IKEA, la penderie.
Non, mais le soutien moral, le soutien moral. Ne pas oublier qu'il y a encore il peut y avoir des femmes qui meurent en couche, d'accord. Donc le papa qui est là, le moment partagé aussi, qui va jamais, il va jamais revenir ce moment. Hein. C'est foutu. Et ou alors. Elle considère que l'homme en fait n'a aucune voilà, elle a peut-être
une mauvaise expérience personnelle. Aussi, voilà,
je pense que ça doit être ça. J'ai l'impression que c'est ça. Maintenant, est-ce que ça vaut
suspension? Non, pas du tout.
Je suis pas sûre. Non, franchement, je trouve que c'est un peu excessif. Ça, c'est les réseaux sociaux où il faut absolument réagir et
disons
montrer qu'on est fermé.
Peut-être si elle avait transformé ça, elle pouvait pas le dire parce que c'est sorti comme ça de manière spontanée et même un peu. C'était une colère, tu sentais que c'était quelque chose qu'elle voulait dire. Mais si elle a dit « je considère que » ou alors « mon accouchement est un, je sais pas, un moment dégueulasse et ce putain de père n'était pas là », enfin j'en sais rien. Mais je pense que c'est son vécu personnel. Emmanuel, tu as accouché. Tu as assisté à l'accouchement de tes enfants?
J'ai eu 3 enfants et mon épouse a accouché à chaque fois par césarienne et lors de la... Premier accouchement, elle était en danger, ainsi que notre fille en l'occurrence, parce qu'il y avait un problème grave. Et la césarienne s'est faite en urgence, j'étais effectivement sur place. Pour revenir au footballeur, c'est sa responsabilité personnelle. Il va faire une balance entre sa situation de père et sa situation de champion. Mais on peut pas critiquer ça. Ça relève de sa responsabilité personnelle. D'ailleurs, ça l'honore d'une certaine manière. Quant à l'intervenante médiatique, c'est empreint d'une certaine vulgarité, avec un emportement un peu douteux. Mais bon, là, on n'est pas sur un sujet d'ampleur géostratégique.
Je voudrais qu'on écoute Anne-Sophie qui est avec nous. Ils appellent du Val-de-Marne. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour les GG.
Vous
avez 2-3 l'antenne.
Vous partagez ce coup de gueule ou pas de France Piron?
Oui, je partage ce coup de gueule. Parce que, à titre personnel, j'ai accouché d'un petit garçon le 15 juin dernier.
Ah bah, mes félicitations. Bravo, c'est tout récent.
Merci, c'est tout récent, avec la chaleur, c'est pas forcément évident, mais on essaie de survivre. je trouve effectivement que cette dame a eu des propos assez... c'est dommage de tenir ce type de propos, parce que je trouve que c'est aussi une sorte de basculement sociétal dans lequel on est. Je le vois d'ailleurs en entreprise, je suis responsable RH dans une agence de l'État, et on voit que les papas veulent vraiment être de plus en plus présents dans la parentalité et dans l'éducation de leur enfant, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable.
Et votre compagnon ou votre époux était à vos côtés pour l'accouchement ?
Exactement.
Ça a été un soutien ou il regardait le plafond ?
Non, un soutien, des encouragements. C'est vraiment été un moment pour moi évidemment précieux, et que le papa ait été là d'ailleurs avant l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement, parce qu'après avec la chute hormonale, etc., c'est pas évident. Il est vraiment là H24 et c'est vraiment un soutien incroyable. Permettez-moi d'ailleurs de faire un hommage à mon époux Arnaud, si vous me le permettez. Là, il est en train de dormir parce qu'on est en train de faire des switches avec le bébé. Mais voilà, ça a été un soutien et je trouve que c'est vraiment important qu'il ait pu participer.
Oui, alors c'est pour ça que dire que c'est un moment dégueulasse et que le père ne sert à rien, elle est allée un peu loin.
C'est son
vécu et ce qu'elle avait enfoui d'elle de manière personnelle. Elle est allée un peu trop loin, quoi. On est d'accord.
Voilà, c'est sans doute son expérience à elle, ce qui n'a pas été.
Ça vaut peut-être pas le fait de la suspendre. L'antenne,
si. Non, sans doute pas. Non, après, c'est son avis personnel.
Elle a été incarcérée.
Et alors, attendez Anne-Sophie, parce qu'on a Baudouin qui veut réagir du côté du Loir-et-Cher. Bonjour Baudouin.
Salut tout le monde.
Qu'est-ce que vous en dites, Baudouin ?
Je pense que la journaliste, j'ai oublié son nom, excusez-moi.
France Piron.
Elle a bien le droit de dire ce qu'elle veut. Enfin,
dans une émission de sport, quand même, bon, elle pouvait le garder pour elle, ça, c'est peut-être tombé un peu à côté.
Non, je suis pas d'accord, parce que le footballeur en question, il va faire comme bon lui semble. Moi, je l'invite à faire la case de ce qui est important et la case de ce qui est essentiel. À sa place, je mettrai la Coupe du Monde dans ce qui est important et la naissance de mon fils dans ce qui est essentiel. Mais c'est que mon opinion.
Lui, c'est
comme le veut, et surtout la journaliste. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte de la puissance des réseaux sociaux et compagnie, parce que moi, je vous invite à faire très attention. Et avant peut-être vos prochains sujets, faites un débat d'opinion sur les réseaux sociaux. Sachez ce qu'il va falloir dire pour être clean.
On y est régulièrement confronté, Baudouin, vous le voyez bien. On y est régulièrement confronté, Baudouin, vous le voyez, si vous suivez les GG. Vous voyez à la fois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous voyez les saisies de l'ARCOM. Vous voyez les actions en justice contre nous aussi, quoi, Baudouin.
Je suis très déçu de l'équipe. Pourquoi l'équipe se rabaisse à vouloir l'écarter ? En plus, elle est très bien dans son rôle. Le débat est bien mené tout le temps. Enfin, je regarde pas à chaque fois, mais de là à la mettre à la porte ou de la mettre à pied, enfin, ça n'a aucun sens. Elles disent qu'on a le droit d'accord.
Baudouin, je vous pose une question. Vous avez fait de la compétition internationale en tant que cavalier ou pas ? Vous êtes allé à un haut niveau ou national ou
national.
Bon, est-ce que le jour d'une compétition nationale importante, un grand concours, si vous savez que votre femme a accouché, est-ce que c'était prioritaire par rapport à votre compétition ?
Mais c'est la sensibilité de chacun. Regardez, aux Jeux équestres mondiaux, il y a un cavalier qui a perdu son père la veille du cross. Bon, il est monté à cheval, il a fait son parcours. C'est vraiment la sensibilité de chacun, mais l'opinion de chacun doit être respectée. Enfin, je pense qu'on a fait la révolution en France pour que chacun puisse dire ce qu'il pense en toute liberté. Enfin, c'est dramatique ce vers quoi on va. Il n'y a pas un bon d'homme. Ce qu'elle a dit, c'est peut-être crash aux yeux de certains, mais c'est son opinion et il n'y a rien de grave. Enfin,
mais moi, je suis d'accord avec vous, la chaîne, devant ce que ça a provoqué sur les réseaux sociaux, s'est dit, oulala, si jamais il y a une association ou qui que ce soit qui porte plainte, on va désamorcer le truc tout de suite. Joël, tu voulais rajouter quelque chose ?
En fait, qu'elle pense que l'accouchement est dégueulasse, ça c'est son opinion. Moi, ce qui pose problème, c'est le rôle du père, parce que c'était un papa, enfin le joueur de foot, en disant qu'il a qu'un rôle de figurant. Ça c'est complètement autre chose. Là, elle parle du rôle du père, parce que si on parle que de l'accouchement, c'est vrai qu'il y a une injonction sur les femmes à comment elles doivent vivre la grossesse, comment elles doivent vivre la maternité, à quel moment elles doivent reprendre le travail. On se rappelle de Rachida Dati. Oh là là, c'était une très trop femme parce qu'elle avait repris le travail au bout de 15 jours. Enfin,
alors
c'est
regarde,
compliqué quoi.
La présence des pères à l'accouchement est-elle indispensable ? 65% disent oui quand même. Allez, suite des GG dans un instant, à tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi.
Les Grandes Gueules.